Frères et sœurs, en période de rentrée, on éprouve régulièrement deux sentiments un peu contradictoires. D'un côté, il y a la joie de revoir ce qu'on n'avait plus vu depuis longtemps, et de l'autre, on découvre ou on redécouvre qu'ils sont parfois aussi un peu agaçants. Tiens, j'avais oublié qu'il était pénible, et l'on a un peu de mal à les supporter. Et de fait, il n'est pas simple de constituer et de maintenir un peuple de frères avec des hommes imparfaits et pécheurs. Plus encore, cette réalité de l'imperfection et du péché implique qu'il y aura des ajustements à faire régulièrement. Ce sera fatigant, agaçant, mais inévitable. Un peu comme si vous deviez jouer ensemble avec des violons ou des guitares, eh bien, il faut réaccorder régulièrement les instruments si l'on veut conserver l'harmonie. Cela demande du temps et des efforts, assurément, mais si l'on veut jouer dans un ensemble, il faut y être prêt. Alors, on peut s'interroger, mais ce peuple de frères est-il vraiment nécessaire? Puisque si c'est compliqué à maintenir, eh bien, c'est en tout cas le souhait explicite du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il s'est fait chair, c'est pour cela qu'il donne sa vie sur la croix. Ça montre que c'est quand même sérieux et cela, ça tient à son cœur. Et juste avant notre passage, Jésus reprenait l'image de la brebis égarée pour manifester son désir qu'aucun membre du troupeau ne se perde. Vous vous rappelez cette parabole de la brebis perdue, le berger qui a 100 brebis et qui se dit pas « Oh, il m'en reste encore 99, donc bon, en perdre une, tant pis, c'est la vie. » Il part à la recherche de l'égaré. Voilà. Il a exprimé sa désolation même face à ceux qui font tomber dans le péché, en prenant cette image si frappante. Malheureux ceux qui conduisent au péché, ceux qui font tomber l'un des plus petits de leurs frères, il vaudrait mieux qu'on leur mette une grosse pierre autour du cou et qu'on les jette à l'eau. Désolation face à ceux qui font tomber dans le péché. Et donc Jésus a marqué ainsi l'importance que nous allions à notre tour à la recherche de l'égaré. Si tu es du Christ, si tu es chrétien, tu partages le souci du Christ, même pour le plus petit d'entre ses frères. Tu as été établi guetteur pour tes frères. On l'entendait dans la première lecture avec le prophète Ézéchiel, « Je t'ai établi guetteur et je te demanderai compte de son sang. » C'est pourquoi je voudrais vous parler ce dimanche de comment vivre la correction fraternelle, cette correction fraternelle inévitable. Et pour vous en parler, je vous invite à retenir trois mots. Respectueuse, objective, et persévérante, respectueuse, objective et persévérante. Je pourrais m'amuser à dire, est-ce que les servantes de l'Assemblée, vous pouvez répéter ces trois mots? Tadam ! Respectueuse, objective, persévérante. Alors qu'est-ce que c'est que cette correction fraternelle respectueuse? Elle est d'abord respectueuse d'une certaine diversité des opinions. Jésus a précisé, si ton frère vient à quoi? À pécher contre toi. Et non pas simplement si ton frère a une opinion qui t'agace. Parce que tout agacement que nous pouvons éprouver n'est pas systématiquement provoqué par un péché, c'est-à-dire par un refus d'aimer comme le Christ aime, par une injustice. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as organisé les choses à une façon différente que moi que c'est forcément injuste. Donc, première distinction. Deuxième chose, elle est respectueuse de la personne et de son image. Comment cela? C'est à la fois, ce n'est pas le respect du flatteur. Le flatteur, il n'a jamais le courage de dire quelque chose qui n'aille pas dans le sens du poil. Mais c'est le respect de l'ami prêt à dire quelque chose de compliqué à entendre, parfois aussi à dire. Et on le dit justement parce que c'est un ami. C'est parce que tu es précieux à mes yeux que je te dis cela plutôt que de me taire, parce que je ne veux pas que tu te perdes. Et c'est parce que tu es mon ami que j'ai confiance que tu peux l'entendre. Donc il y a un courage au-delà de celui du flatteur qui ne veut pas de vagues. Ce respect de la personne commence par une attitude d'aller trouver l'autre seul à seul. Vous voyez, on ne parle pas derrière son dos, Et on ne le jette pas non plus en pâture au regard de tous. On ne le jette pas non plus en pâture à l'espace public, aux réseaux sociaux, sur toute la terre. Il y a une protection de la personne. On n'entre pas immédiatement en procès public. Ça demande du coup un certain tact. On s'organise pour prendre rendez-vous, on choisit un endroit discret. On prévient que ce que l'on a à dire n'est pas forcément simple à entendre, pas forcément simple à dire. Et on fait sentir que ce que l'on dit est prononcé dans l'amitié et la confiance en la personne. Alors, prononcé dans l'amitié et la confiance en la personne. Donc voilà, la correction fraternelle respectueuse. La correction fraternelle comme objective, elle est objective. C'est ce que manifeste le souci de trouver un ou deux témoins si l'autre n'a pas voulu entendre. Pourquoi ? Parce qu'ils vont aider à préciser l'injustice commise. Ce n'est pas seulement une impression de ma part. Celui-ci et celle-là partagent aussi mon constat. Le constat d'une injustice va plus loin qu'un simple sentiment. Et parfois, on se contente de dire « ça va mal, ça se passe mal ». Alors, c'est peut-être vrai, mais il faut aller plus loin, il faut pouvoir nommer l'injustice. Exemple, tu t'étais engagé à me donner le dossier lundi pour que je puisse le regarder. On est mercredi et je ne l'ai toujours pas, j'ai toujours rien. Ben, c'est pas juste. Donc, il y a une expression de en quoi consistait l'injustice. Parfois, une chose devait être dite, mais l'injustice, elle réside dans la façon de le dire qui n'allait pas. Ah, c'est vrai, je t'ai pas remis le dossier à temps, ça a dû être contrariant, mais il n'était pas juste que tu m'insultes en criant devant tout le monde. Voilà. La correction fraternelle distingue l'expression du sentiment qui nous habite du constat de l'injustice. On a le droit de dire « je suis très en colère, je suis déçu, je suis attristé, je suis agacé ». C'est différent de « tel acte a été fait et ça m'apparaît injuste parce que ceci ou cela », et de même de préciser « voilà ce qui aurait été juste » ou « voilà ce que j'aurais attendu ». Oui, il arrive que l'expression du sentiment prenne toute la place, rendant inaudible l'expression du constat de l'injustice. Vous savez, c'est des moments où on a pris une soufflante, il y a une espèce d'orage ou de tornade qui nous est arrivée dessus. Alors j'ai compris que je me prenais une tornade dans le visage, mais je n'ai pas compris en quoi ça consistait, quel était le problème et qu'est-ce qu'il faudrait pour résoudre le problème. Alors, la correction fraternelle a une objectivité qui permet à la fois qu'on puisse comprendre « j'ai une tristesse, un agacement, une colère, voici le point que j'ai trouvé injuste et voici ce que j'attendrais. Voilà. » La correction fraternelle est objective et permet de saisir pas simplement le sentiment, elle veille à ce que le sentiment ne noie pas le tout, mais qu'on ait aussi part justement aux éléments qui décrivent l'injustice et qui manifeste ce qu'on aurait attendu ou ce qu'on espère comme solution. Correction fraternelle, respectueuse, objective, mais aussi persévérante. Comment ça ? Eh bien, vous avez vu que Jésus, dans ce qu'il disait, ne se contente pas d'un refus de l'autre. Je lui ai dit, il n'a pas voulu entendre, eh bien, on n'en parlera plus jamais. Non, il y a plusieurs étapes. On va chercher d'autres témoins. Il y a l'étape aussi de la communauté. Parce que c'est « est-ce que tu veux continuer à être des nôtres ?» Cela est important pour nous. L'objectif est vraiment de gagner son frère et non pas de le clouer au pilori, de l'épingler au mur des infâmes. Alors, on dit la chose, mais il y a une persévérance aussi. À noter, si l'autre ne veut rien entendre, parce que c'est une chose qui peut arriver, si l'autre ne veut pas revenir de son péché, il est considéré, Jésus dit, comme un païen, un publicain. Jésus n'a pas dit « considérez-le comme un ennemi ». Jésus n'a pas dit « considérez-le comme quelqu'un à exterminer ». Mais un païen ou un publicain, le païen, c'est celui qui, effectivement, il est à l'extérieur du peuple. Le publicain, c'est celui qui a décidé de ne pas avoir à tenir compte de ce qui fait le noyau, la vie du peuple. Il y a bien une distance, mais ce n'est pas un ennemi à exterminer par tous les moyens ou qui n'existerait plus pour nous. La forme ultime, d'ailleurs, de la persévérance, Jésus l'a décrit en parlant de la prière. Vous avez peut-être remarqué, notre évangile se terminait par cette mention où Jésus dit « Si deux ou trois sont réunis en mon nom, eh bien je suis au milieu d'eux. » Dans le contexte de l'évangile, notre évangile, ce qui est un peu avant, ce qui est un peu après, ça manifeste que la prière dont Jésus parle ici, c'est tout particulièrement la prière pour que l'homme se convertisse, pour que l'homme revienne de son péché. Donc plus particulièrement, pour que cet homme, à qui ce frère à qui je me suis adressé, parce qu'il a péché contre moi, qui ne veut rien entendre, eh bien je continue à prier le Seigneur pour qu'il revienne. Seigneur, fais-le revenir. Seigneur, viens frapper à la porte de son cœur, pour qu'il entende et se convertisse. La forme ultime de la persévérance est celle de la prière et qui nous est toujours possible. Je prie pour que tu entendes la voix du Seigneur, pour que tu reviennes, pour que tu sois sauvé, pour que tu vives. Ce n'est pas indifférent à Dieu. En Ézéchiel, juste après la première lecture qu'on a entendue, le Seigneur dira « Je ne veux pas la mort du pécheur, je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur ». Mais bien plutôt à ce qu'ils se convertissent et vivent. Si ce n'est pas indifférent à Dieu, ça ne peut pas l'être aussi pour moi. Eh bien, Seigneur, en ce temps de rentrée, nous voulons assumer la responsabilité de la correction fraternelle pour qu'advienne ce peuple de frères que tu constitues. Nous te le demandons, affermis-nous dans ce respect, dans cette objectivité, dans cette persévérance qui la caractérise. Apprends-nous à la fois à la donner, à la solliciter et à la recevoir. Tu es le Dieu venu appeler les pécheurs pour en faire des saints. Nous avons confiance en toi. Amen.